Premier journal du jour avec vous, Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
L'Iran accuse les États-Unis de vouloir déclencher une guerre psychologique avec leurs sanctions, nouvelles sanctions qui sont entrées en vigueur à 6h tout à l'heure, 3 mois après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien.
L'Espagne est la nouvelle porte d'entrée de migrants en Europe. 500 personnes ont encore été sauvées des eaux ce week-end. Une centaine attendent d'y débarquer, mais les autorités locales peinent à s'organiser.
Dans cette édition encore, nous reviendrons sur les violences à Beaune, en Côte d'Or la semaine dernière. Violences tirs de fusil également, potentiellement à caractère raciste. Et puis Joël Robuchon en chiffres, jusqu'à 32 étoiles au Michelin, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, 73 ans de passion culinaire. Le chef français est décédé hier. Depuis une heure maintenant, officiellement, de nouvelles sanctions américaines sont entrées en vigueur contre l'Iran et contre toutes les entreprises qui y commercent. Donald Trump justifie ces mesures en rappelant que l'Iran ne veut pas arrêter son programme nucléaire. L'Iran qui finance, selon les États-Unis, le terrorisme au Moyen-Orient. Il tend toutefois un semblant de main, Donald Trump, en évoquant de possibles négociations. Réponse du président iranien hier soir, suivie pour France Culture par Siavash.
Dans sa première réaction aux nouvelles sanctions américaines, le président Hassan Rouhani a affirmé qu'on ne pouvait pas à la fois vouloir des négociations et imposer des sanctions contre le pays. Il a comparé le président Trump à quelqu'un qui plante un couteau dans le bras de son concurrent ou son ennemi et demande en même temps de négocier. La réponse est qu'il doit d'abord remettre son couteau dans la poche et venir à la table des négociations, a ajouté le président Rouhani. Le président iranien a reconnu que les sanctions les plus dures viendront en novembre prochain pour arrêter les exportations pétrolières de l'Iran et empêcher les relations bancaires du pays avec le reste du monde. Les Européens, la Chine et la Russie nous ont promis de nous aider pour y faire face, a affirmé le président iranien pour tenter de rassurer la population. Reste qu'avant même leur entrée en vigueur, les nouvelles sanctions américaines ont durement touché l'économie iranienne avec une chute vertigineuse de la monnaie nationale. Cette chute a provoqué une très forte augmentation des prix de tous les produits, notamment de consommation courante. L'économie iranienne tourne au ralenti avec des licenciements importants dans de nombreux secteurs. Dans les magasins, certains produits commencent à manquer, ce qui accentue encore les craintes de la population.
Des sanctions qui touchent aussi, je vous le disais, les entreprises étrangères. Pour y faire face, l'Union européenne a mis en place ce matin également sa loi dite de blocage. Sur le papier, les sociétés européennes pourront décider de rester en Iran sans risque de sanctions financières de la part des Américains. Sanctions soit annulées en Europe, soit remboursées. Reste à savoir par qui. Elle avait été condamnée en 2015 à 20 ans d'emprisonnement pour infraction contre la sûreté de l'État. Simone Gbagbo a été graciée hier soir par l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. L'épouse de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avait en revanche été acquittée l'année dernière. Acquittée sur les accusations de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre lors de la guerre civile en Côte d'Ivoire en 2011 qui avait fait près de 3000 morts. Décision qui avait alors été critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme. Le navire d'une ONG espagnole se dirige en ce moment vers le sud du pays, à Algeciras, pour y débarquer 87 migrants sauvés en mer la semaine dernière dans les eaux internationales face à la Libye. L'Italie leur avait refusé l'accès à ses ports. L'Espagne, donc, terre d'accueil, ces derniers mois de migrants arrivés par milliers, preuve en est ce matin encore. Une situation nouvelle pourtant que les autorités espagnoles ont du mal à gérer, car si Madrid va recevoir les aides financières de l'Union européenne, c'est l'organisation sur place qui peine à se mettre en place, et notamment dans le sud, là où doit justement débarquer un nouveau navire humanitaire dans les heures qui viennent, Sébastien Berriot.
L'exemple le plus frappant de ces difficultés, c'est le port d'Algeciras sur le détroit de Gibraltar que certains appellent désormais en Espagne le nouveau Lampedusa. Algeciras en effet est confronté à des arrivées quotidiennes de migrants par dizaines. Les autorités locales et régionales tentent de s'organiser. Des bâtiments publics ont été libérés pour être transformés en centres d'accueil, mais ces locaux sont déjà saturés. La semaine dernière, un bateau est resté dans le port pendant plusieurs jours avec à bord 600 migrants car il n'y avait pas de place à terre. À Tarifa, à quelques kilomètres d'Al Jaziras, la situation est aussi compliquée. Et aussi plus au nord, jusqu'au port de Valencia et jusqu'en Catalogne, des régions qui étaient jusqu'ici un peu moins concernées par les traversées clandestines. Parmi ces migrants, beaucoup de mineurs qui nécessitent des moyens d'accueil particuliers. L'Andalousie, qui n'était pas préparée, a reconnu son incapacité. Le gouvernement central a du coup fait appel à la solidarité des autres communautés autonomes pour l'accueil des mineurs. Parallèlement au volet humanitaire, Madrid doit aussi, pour s'adapter, réorganiser son appareil sécuritaire. Un commandement unique a été mis en place au sein de la Guardia Civile, dirigé par un général, avec une seule mission: tenter de faire face à la pression migratoire.
Les migrants refoulés, en revanche, toujours en Italie, même s'ils sont nombreux, Africains, Polonais, Bulgares ou Roumains, à travailler cet été, récoltant les fruits et les légumes dans une grande précarité et sous un soleil de plomb au sud de l'Italie notamment. Hier, 11 ouvriers agricoles étrangers sont morts dans un accident de la route.
Vous écoutez France Culture, il est 7h06. Un Français et une Allemande ont été condamnés à la perpétuité en Irak.
La scène Gebouj, tout comme une ressortissante allemande, effectivement, Nadia, le prénom a été dévoilé. Tous les deux vont devoir purger une peine équivalente à 20 ans de prison après avoir été reconnus coupables d'avoir rejoint le groupe État islamique en Irak puis en Syrie. Quand le spectre d'une agression raciste rejaillit en France, en Côte d'Or à Beaune, un groupe de jeunes s'est fait agresser violemment dans un square il y a une semaine. Des voitures leur ont d'abord foncé dessus, puis ils ont été visés par des tirs de fusil. De chasse. 7 personnes ont été blessées. Le procureur de la République de Dijon a ouvert une enquête. Il reconnaît que les agresseurs avaient proféré des injures racistes quand ils ont ouvert le feu. En attendant que la justice identifie les agresseurs, une députée de la majorité, La République En Marche, du département de la Côte d'Or, dénonce ce matin la gravité des faits. Camille Manière la joint par téléphone.
Fadila Khattabi n'est pas la députée de Beaune, mais elle a tenu à s'emparer de cette affaire. En fin de semaine dernière, au chevet des deux jeunes encore hospitalisés, elle a compris qu'il fallait sortir de la très grande réserve observée jusque-là par la classe politique et qualifier les faits pour ce qu'ils sont.
C'est un acte très grave, d'une violence franchement inouïe, et ils ont été très clairs. Ils m'ont dit « Madame, nous n'avons rien fait, c'est un acte tout simplement raciste envers les musulmans ». Et d'ailleurs, y compris le procureur l'a dit, ils ont tenu des propos racistes.
Le procureur, lui, n'exclut aucune piste, notamment celle d'un possible règlement de compte pour expliquer cette fusillade dans un quartier d'habitude pourtant très calme. La députée Khattabi, elle, reste frappée par la gravité des blessures dont souffrent les victimes qu'elle a rencontrées.
Moi, je fais confiance à la justice de notre pays, mais en attendant, les faits sont là. Je veux dire, au vu des blessures, vraiment les blessures graves, ils sont tous les deux couverts d'une soixantaine de plombs dans tout le corps, chacun. La personne qui a commis cet acte, elle a voulu tuer.
Séquelles psychologiques également pour tout un quartier dont les habitants disent aujourd'hui vivre dans la crainte à chaque fois qu'ils voient passer une voiture qu'ils ne connaissent pas. Des habitants qui s'étonnent de ne s'être vus proposer aucun soutien psychologique.
On ne peut pas rester indifférent. Il y a la prudence, oui, mais effectivement, on aurait pu monter une cellule psychologique. Parce que là, les jeunes, ils sont traumatisés.
Traumatisés aussi par le peu d'écho qu'une telle agression, qui a pourtant eu lieu il y a 8 jours, suscite dans l'opinion publique française. Un silence gêné qui n'en finit pas de questionner la députée Fadila Khattabi.
Je ne l'explique pas moi-même. Franchement, moi-même je suis étonnée.
Et face à cette incompréhension, les investigations se poursuivent. Aucune piste n'est encore privilégiée. Il était le chef le plus étoilé du monde, désigné cuisinier du siècle en 1990. Joël Robuchon est décédé hier à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. Représentant de la gastronomie française de Paris à Shanghai, il avait au sommet de sa carrière 32 étoiles au Michelin, 24 à sa mort. Joël Robuchon, maître étoilé, habitué aux chiffres, au vu de son empire, Isabelle Raymond.
38 établissements à travers le monde, dont 5 restaurants gastronomiques. Joël Robuchon, c'est aussi 1200 collaborateurs et une vingtaine de livres de cuisine. En 2017, le magazine Capital avait estimé son chiffre d'affaires à 7 millions d'euros par an. Le génie de Joël Robuchon, au-delà de ses talents culinaires, c'était sa capacité à vendre sa marque. Ses fameux ateliers, 11 au total, Tabouréo et Cuisine Ouverte, n'ont jamais été directement gérés par le chef le plus étoilé au monde. Ce sont des licences avec des investisseurs divers. Joël Robuchon choisissait le décor, la carte, pas les prix, et percevait un droit d'entrée et une redevance sur le chiffre d'affaires. Joël Robuchon avait aussi associé son nom à l'industrie agroalimentaire, Fleury Michon d'abord, puis Carrefour, deux collaborations qui rapportaient de l'argent au chef qui avait aussi imaginé des recettes pour Sushi Shop, la SNCF ou encore Air France. Selon le Figaro, Joël Robuchon, qui se savait malade, avait vendu son empire il y a plus d'un an maintenant, très discrètement, à un fonds d'investissement basé au Luxembourg et en Angleterre.
Joël Robuchon, 73 ans, décédé donc quelques mois seulement après un autre nom de la cuisine française, Paul Bocuse, lui aussi fin gestionnaire. Natacha Trioux y reviendra dans un instant. Juste le temps pour moi de vous donner la météo et bientôt la fraîcheur, demain normalement, après un mardi qui s'annonce encore chaud, 66 départements sous vigilance canicule, 32 à 37 degrés ce matin en région parisienne, 30 à 33 autour de Lille, comptez 30 degrés à Besançon, 28 à Bordeaux-Lyon, 23 degrés à Rennes.